m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Dans son discours sur l'état de la nation du mercredi 5 avril devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État, Joseph Kabila, a annoncé la nomination d'un premier ministre dans 48 heures. Selon vous, quel doit être le profil de cette personnalité et quelles seront ses priorités? Réagissez sur notre page Facebook et commentez aussi ces sujets à l'adresse pa@radiokapi.net. Vous avez également la possibilité de nous appeler au 081-890-6380 ou bien au 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Nico Kalambay, André Mongou et Martin Sebujangwe concourent à la réalisation de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
D'aucuns pensent que le profil du futur Premier ministre est déjà en soi dicté par la teneur même des accords. Et d'autres ne partagent pas cet avis. Nous en soumettons au débat. Thierry Monsonepo, vous êtes avec nous dans ce studio. Bonjour Thierry.
Bonjour Thierry.
Vous êtes un des communicateurs de la majorité. Alors d'entrée de jeu, comment avez-vous analysé les discours des chefs de l'État ?
D'abord, en tant que nationaliste, parce que je suis membre de la Convention des Congolais Unis, nous avons salué le discours du chef de l'État qui, d'entrée de jeu, a martelé sur des questions liées au social en reconnaissant aujourd'hui qu'il y a le recul du pouvoir d'achat de nos populations consécutivement au fait que les matières premières qui représentent la première ressource de notre économie ont reculé dans leur cours et ont impacté sur l'économie de notre pays. Il a insisté sur le fait qu'il fallait nécessairement progresser dans le sens, ça je pars encore sur le plan économique, il fallait progresser dans le sens d'appuyer l'entrepreneuriat local et surtout d'appuyer les jeunes en ce qui concerne notamment la promulgation et la mise en application de la loi concernant la sous-traitance, concernant l'appui aux PME et PMI. Mais au-delà de cela, le président a rappelé une chose importante, je le disais d'entrée de jeu en tant que nationaliste, c'est que les questions essentielles concernant la progression de notre pays dans différents secteurs n'est de ressources que des Congolais. En ce qui concerne notamment la question électorale, il a félicité la Commission électorale nationale indépendante pour le cap des 21 500 000 enrôlés en quelques mois, en appuyant le fait que c'est une responsabilité congolaise. Et sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, il y a une zone opérationnelle concernant le Kasaï pour résorber le phénomène Kamuina-Sampo pour nous, au niveau de la Convention des Congolais Unis, nous traitons ces personnes comme des terroristes. Ce ne sont plus aujourd'hui, au vu des situations, une milice, mais un groupe terroriste qui sème le désordre dans notre pays. Donc, la décision prise par le chef de l'État, d'une part, de régler cela par la création de la zone opérationnelle, mais aussi en s'appuyant sur le ministère de l'Intérieur et des Affaires coutumières, parce qu'il ne faut pas oublier que le soubassement de ce conflit est d'abord coutumier. Et bien entendu, sur le plan politique, le chef de l'État, et ça, ça a été l'annonce phare, a promis que dans les prochaines 48 heures, il y aura un nouveau Premier ministre au regard de l'accord du 31 décembre 2016. Ça prouve à suffisance que le chef de l'État a respecté qui il était, c'est-à-dire un homme de parole.
Alors, parlons du profil de ce nouveau Premier ministre. D'aucuns soutiennent que, je crois que c'est l'idée également du Rassemblement, qu'on puisse tenir compte des dispositions de l'accord du 31 décembre, donc l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais une autre opinion ne partage pas cet avis. Mais pour vous, quel doit être le profil de ce Premier ministre ?
il y a deux choses. Il y a d'abord le principe qui a été établi au regard de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est que le Premier ministre doit provenir du Rassemblement. Raison pour laquelle même le chef de l'État a interpellé les membres de cette famille politique de pouvoir régler les conflits qui aujourd'hui intestinent l'existence du Rassemblement, qui aujourd'hui a trois facettes. Il y a l'aile Mayombe, l'aile Olenankoy et l'aile Félix Tshisekedi dans son tandem avec Lumbi. Donc, ce principe est acquis et la majorité présidentielle va respecter cela et le président de la République de même. Maintenant, en ce qui concerne le profil a été déterminé par les délégués au niveau des discussions, c'est-à-dire qu'il faudrait une compétence managériale, un niveau d'études d'au moins licencié, ça a été clairement établi, et aussi avoir des capacités pour permettre à ce qu'aujourd'hui nous puissions très vite, parce que au regard de l'article 91 de notre Constitution, c'est le chef du gouvernement qui est responsable des actions du pays. Donc il faudrait une personne idoine qui puisse répondre aux défis actuels, notamment la situation sécuritaire dans le centre de notre pays, la situation sociale et la relance de l'activité économique, parce que aujourd'hui nous savons qu'il y a recul de nos réserves en termes de change, il y a un besoin de diversification de notre économie, il y a un besoin de reconforter la confiance des hommes d'affaires qui aujourd'hui est au plus bas niveau.
Voilà, donc vous avez, s'il faudrait que je le répète, le profil a été déjà défini au niveau de l'accord de la Saint-Sylvestre, les niveaux d'études, licence tout au plus, et également qui pourrait être assorti d'une compétence managériale, et à cela il faut ajouter la capacité de répondre aux défis actuels sur le plan social, économique et sécuritaire. Est-ce que les autres partagent cet avis? Nous allons suivre les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau dit débat. Hugues, vous êtes à Kinshasa, Maître Omar également dans la ville-province de Kinshasa et ingénieur Valérie à Kindou. Hugues, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous venez de suivre notre invité qui a dit, dans le principe, au fait défini au niveau de l'accord du 31 décembre, il est déjà clairement dit que le Premier ministre sortira du rassemblement. Le profil, c'est le niveau d'études en licence, assorti d'une compétence managériale et aussi une capacité de répondre aux défis actuels, notamment au niveau social, économique et social.
Absolument, monsieur. Embrasser les choses dans la même direction. Je trouve qu'il est d'abord préférable que nous puissions placer les fonds dans. Le problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que, croyons de l'autre part, la majorité présidentielle
Voilà, Hugues, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible en onde, parce que là, il y a une mauvaise qualité des communications, des liaisons téléphoniques. Le temps peut-être que votre ligne puisse s'améliorer. On va prendre Maître Omar qui est à Kinshasa également. Maître Omar, bonjour.
Bonjour, Gilles Longuembe, bonjour à l'invité.
Alors, vous venez de suivre notre invité qui a bien défini les profils, qui est aussi défini au niveau de l'accord du 31 décembre. Mais bien entendu, en amont, notre invité a insisté sur le principe qui est déjà acquis, et notamment le Premier ministre devrait provenir du Rassemblement.
Merci beaucoup, très cher Gilles. D'abord, je tiens à remercier la radio Capi pour ce thème et le chef de l'État pour ses discours et le jeu, qui a même été salutaire pour la nation. Parce que nous l'avons toujours dit lorsque le fait brûle, il ne faut pas savoir qu'il a brûlé, il faut le teindre même avec des locales. Parlant des profils, je voudrais axer mon propos à deux aspects. Premièrement, sur le plan technique. Je fais mienne l'intervention de l'invité et j'ajoute à dire encore, en management politique, il est déjà déterminé de prendre la couleur qui est respectée. Les trois critères, il faut qu'il y ait un homme intègre. Voilà pourquoi ailleurs, aux États-Unis ou en France, on interroge même le casier judiciaire des gens. Il faut qu'on aille à faire un homme intègre avec une moralité non résistable. Deuxième chose, il faut un homme compétent. Là, j'ai raison d'inviter, il faut avoir une licence, même si la licence n'est pas une preuve de l'intelligence. Mais surtout, un homme avéré en économie, puisque les enjeux sont aussi économiques. Troisièmement, il faut un homme expérimenté. Pourquoi j'insiste là-dessus? Face à des crises aussi élevées comme celles que nous vivons aujourd'hui, il ne faut pas un homme novice. Il faut des gens de terrain expérimentés parce que l'heure est grave. Il faut des solutions urgentes avec un homme expérimenté. Mais il y a un critère, là je m'en vais au deuxième aspect de mon intervention pour dire un critère politique chinois qu'on ne peut pas négliger parce qu'il en va de la paix de notre pays. Au fond, quelqu'un pour demander à un philosophe Apollon quel est le meilleur régime politique du monde. Il a dit, dites-moi pour quel continent et à quel moment de son histoire. Nous parcourons un moment de l'histoire très très grave et on ne peut pas lever ou encore tenir des propos avec sentiment ou encore émotion. La première évidence est que nous avons une crise politique parce qu'il n'y a pas eu élection. Cette crise nous a mené au dialogue. Le dialogue n'a pas été respecté suite à l'immaturité politique de l'élite politique congolaise. La deuxième évidence est que le chef de l'État a compris qu'il était le seul à trouver la solution et il a tenu un discours. Nous avons tous applaudi. Mais une évidence aussi qu'on ne peut pas négliger, c'est que c'est vrai que l'opposition est divisée, mais tout le monde sait qui a un mot à dire. Là, je fais allusion à part l'aspect technique, intelligence et compétence, faisant sur l'aspect politique, et l'homme qui a le poids politique. Mieux ne peut ignorer, même ne peut dire que si vous regardez que la grosse potentialité de elle qui se quitte. Et tout le monde est conscient, j'ai pas d'évidence, je vais me dire que c'est clair. Tout le monde est conscient que si on nomme un homme d'un courant autre que le leur, il y aura des problèmes dans ce pays de troupes. Donc, allez-vous des sentiments communs, l'intelligence est vraie, mais la politique est contenue même sur la science, là, qu'il faut des solutions fortes.
Oui, alors Omar, est-ce que vous pensez comme les autres que, il y a 48 heures, on a laissé quand même l'État au rassemblement de pouvoir mettre de côté leurs querelles pour finalement se mettre d'accord, harmoniser leur point de vue?
Oui, assurément. Nous avons toujours critiqué, vous savez, les interventions d'une majorité politique et de l'homme politique de la majorité de l'opposition, qui est toujours pris par l'amour propre et l'intérêt personnel. Aujourd'hui, on leur demande dans les 48 heures de se mettre d'accord. Mais les gens qui n'ont pas pu se mettre d'accord pendant 3 mois, pensez-vous que dans 48 heures, ils vont se mettre d'accord? Notre souhait le plus ardent de se mettre d'accord, il n'en va de la paix. Mais au cas où ça arrivait qu'ils se mettent
pas d'accord,
chacun peut tirer le trait de son côté. Je pense que le chef de l'État doit être réaliste ainsi que la majorité. Tout le monde le sait aujourd'hui qui a un mot à dire dans ce pays. On a eu vu le monde lundi, c'est le thème-là qu'il avait demandé. Je ne suis pas de l'opposé de la majorité, vous me connaissez très bien, mais je suis réaliste et évident. Mais c'est Thierry qui est là, mais sur l'un encore, et moi qui vous parle, personne ne peut se lever pour dire vivement que les gens obéissent. Si vraiment on veut la paix dans ce pays, si on veut vraiment protéger la jeunesse comme on le prétend, il faut qu'on nomme celui qui a un poids politique. On peut théoriser, on peut dire des théories, mais l'évidence est têtue et tout le monde la voit. Par rapport maintenant à la moralité, pourquoi j'insiste? Parce qu'il n'y a pas de la paix. Les élections qu'on réclame, le pouvoir qu'on veut, s'il n'y a pas de paix, comment on va le faire? Mais quelles sont maintenant les priorités s'il est nommé par rapport aux critères que j'ai évoqués? Premièrement, il y a un problème sérieux, l'amélioration des conditions sociales. La socialité est avant tout dans un pays. Nous mangeons quoi? Nous vivons quoi? Quels sont les moyens de transport? Deuxième chose, il faut qu'on regrette l'aspect économique. J'ai remarqué le fait de l'État qui l'a reconnu. On ne peut pas avoir des élections qu'on a en prétendant d'entrer s'il n'y a pas une économie forte.
Omar, tout ça, c'est voilà, je crois que par rapport aux commentaires que nous avons vus sur notre page Facebook, c'est discutable. Dès lors qu'on sait que dans 6 ou 7 mois, on doit aller aux élections, selon la séquence telle qu'arrêtée par l'accord du 31 ou encore d'ici mois d'avril, comme le dit si bien l'accord du 18 octobre. Donc je crois que nous avons encore une marge d'une année. Est-ce qu'en une année, faudrait-il que les premiers ministres qui arrivent puissent d'abord se pencher sur les sociales des gens, améliorer les conditions de vie des populations, ou bien faudrait-il, comme l'a dit le chef de l'État, aller directement aux élections, organiser les élections, parce que c'est une priorité des priorités maintenant.
Si aujourd'hui j'ai voulu volontaire les présidents pour dire devant les États s'inclinent, tout le monde le sait, pour les élections, il faut qu'il y ait des moyens. Et j'ai toujours dit hier, excusez-moi de le répéter, dans une nation, il y a des priorités. Elle est toujours obligée de laisser certains pour dire que la priorité dans un pays, ce n'est pas les élections. D'abord, le social. Je vais peut-être choquer certains. Si aujourd'hui, un fonctionnaire a 2 000 $ par mois, il a des frais médicaux, il a les frais de transport, ses enfants peuvent aller à l'université facilement, il va demander les élections. C'est pas que les gens souffrent. C'est vrai.
Voilà, merci beaucoup.
On a tout le monde est conscient que sur le plan technique, ça ne tiendra pas lieu.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Maître Omar. Merci. Merci beaucoup parce que vous avez évoqué dans votre intervention 2 aspects des choses, l'aspect technique et politique. Vous avez estimé que c'est vrai. En grande partie, vous partagez donc les idées de notre invité tout à l'heure sur la compétence, comme l'a dit l'accord du 31 décembre. Mais vous insistez beaucoup plus sur la crise politique et c'est un grand défi à relever. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu. Bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à l'invité et à tous nos amis auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre contribution?
Le discours du chef de l'État, c'était tellement un événement trop attendu de tout le monde, si bien que j'y ai accordé une attention particulière. J'ai noté que c'est un discours qui a duré 30 minutes pratiquement, de 12h12 à 12h42 heure de Kinshasa. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, Le discours avait pratiquement trois phases. Une phase, un volet économique, un volet sécuritaire et un volet politique qui est le dernier. C'est de celui-là, donc de ce dernier volet politique, qu'il s'agit dans notre
débat. Dans notre émission débat aujourd'hui.
Moi, je me dis ceci. C'est depuis le mois de novembre que le chef depuis le mois de novembre 2015 que le chef de l'État avait signé une ordonnance convoquant les dialogues. S'il l'avait signé, c'est parce qu'il y avait une crise. C'est parce qu'il y avait un problème à résoudre. Il l'a répété d'ailleurs hier. Et aussi, après la signature de l'accord du 18 octobre, il est allé au-delà en disant que pour des soucis de large inclusivité, il a demandé aux évêques de poursuivre avec le dialogue du centre interdiocésain. Après ces dialogues, le chef de l'État a dit que le dialogue a réussi à 98%, il reste seulement 2%. Toutefois, il regrettait le fait qu'on accordait plus l'importance au partage du pouvoir plutôt qu'aux élections. Maintenant, le profil à mon niveau est le suivant. Le profil, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Le profil est déjà mentionné là. Il a été discuté entre toutes les parties prenantes. Je ne vois même pas un ni ou un non que je peux ajouter aujourd'hui comme condition. Je dis seulement les critériums de l'accord de Saint-Sylvestre et celui qu'il faut. Or, dans ces critériums, nous n'avons pas que le profil, nous avons aussi la manière même dont la personne devrait être nommée. Moi, je demanderai au chef de l'État de rejeter la liste qui lui a été transmise par nos amis des rassemblements de l'autre aile, qui se reconnaissent, non même pas du rassemblement, mais qui disent, qu'est-ce que Bruno Tshibala a dit? Il a dit, nous, les courants tshisekedistes, humanistes et progressistes. Donc, ce n'est pas le rassemblement, c'est un courant. Mais dans le discours du chef de l'État, il a bien parlé du rassemblement. Je préfère que les chefs de l'État prennent en compte la liste qui lui sera déposée par les rassemblements. S'il faut qu'on précise, alors les rassemblements, Félix Tshisekedi, que le premier ministre que les rassemblements va donner réponde aussi aux critères qui
tel
sont
définis dans l'accord.
Consignés dans l'accord. Et à ce moment-là, je crois que tout sera résolu. Parce qu'il nous faut un premier ministre qui joue aussi de la légitimité du peuple. Aujourd'hui, si pendant cette transition, le premier ministre ne joue pas de la légitimité du peuple, ça n'ira pas.
Voilà, merci
vous
beaucoup.
Vous avez remarqué, vous-même. Oui.
Merci beaucoup, Valérie. On va revenir à vous, Thierry Moussénépo. C'est vrai, tout le monde est d'accord que les chefs de l'État puissent tenir compte des dispositions de l'accord du 31 décembre. Que va-t-il se passer du moment où, dans 48 heures, toutes les ailes-là ne s'entendaient pas?
D'abord, il y a une chose.
Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où soit, parce que nous avons vu lors des consultations, l'aile Olengakoy et Mayombe ont été reçus par les chefs de l'État. L'autre aile, de G7 et UDPS, n'ont pas mis le vœu d'aller rencontrer les chefs de l'État. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Mais avant d'y arriver, d'abord, M. Gier, il est important de préciser aux éditeurs ce qui suit. J'ai entendu les deux précédents intervenants, j'ai apprécié leurs interventions, mais il y a un couac, c'est que je ne comprends pas. Comment est-ce que des Congolais peuvent prendre une capacité de nuisance comme un critère pour nommer un Premier ministre? C'est-à-dire, il faut prendre tel parce qu'il a réussi à paralyser la ville. La capacité de nuisance, parce que paralyser une ville, c'est une nuisance. Parce que pendant 24 heures, ça veut dire que le trésor public ne peut pas empocher ce qui est prévu dans les taxes et autres transactions parafiscales. Donc, prendre ça comme critère, c'est envoyer le pays vers le désordre et légitimer même tous ceux qui vont demain avoir des capacités de nuisance pour finalement devenir Premier ministre. Ça, il faut directement écarter. Deuxièmement, le problème est que le chef de l'État, ainsi que nous qui sommes de sa famille politique, restons sur les principes. Nous ne sommes pas ici dans un débat subjectif. Le principe est le suivant, c'est que il faut que le futur Premier ministre provienne des rangs du Rassemblement. Il n'est pas de la charge du chef de l'État de s'immiscer dans les affaires privées d'une plateforme politique qui aujourd'hui est en éclatement. Raison pour laquelle il les a appelés du haut de la tribune du Congrès pour leur demander d'arranger les problèmes qui les divisent. Ce n'est pas de sa responsabilité. Donc, il
est-ce
faudrait...
que 48 heures, c'est amplement suffisant? Parce que d'abord, pour arriver même à la fin des négociations directes, qui étaient prévues d'ailleurs pour 4-5 jours, on est allé à 4 mois.
Non, mais le problème est que, dernièrement, en ce qui concerne les arrangements particuliers, deux points ont buté sur les discussions parce que la majorité présidentielle est restée sur la position qu'il fallait nécessairement, pour le choix du Premier ministre, respecter la Constitution, qui en son article 78 donne au président de la République le rôle de nommer au sein de la majorité parlementaire. Ce rôle de nomination ne fait pas de lui et contraire à l'esprit que l'on veut aujourd'hui infuser dans les discussions, c'est que le chef soit un intérimaire de ce qui est décidé ailleurs, c'est-à-dire on choisit quelqu'un et on présente au chef de l'État juste pour signer l'ordonnance. Raison pour laquelle la majorité a demandé 3 noms. Mais le principe est resté que les 3 noms doivent provenir du rassemblement. Donc c'est là le premier blocage. Le second, c'est en ce qui concerne le CENSA. Il a été clairement établi. Il y a des PV, il y a des témoignages, des écrits, des interviews, même des cadres du Rassemblement et de l'UDPS qui ont soutenu que le choix porté sur Étienne Tshisekedi a été fait in tuite personae par rapport à sa lutte politique. Donc par rapport à cela, il est important, étant donné que le mode opératoire dans les discussions au niveau de la CINCO a été le consensus, que le prochain qui va succéder à M. Étienne Tshisekedi obtienne le consensus de toutes les parties prenantes. Mmh. C'est aussi simple que ça. C'est même à cause de ça que le président de la République hier a dit que ces défis sont surmontables. Donc aujourd'hui, il suffit que nos partenaires puissent ravaler leurs égos. Nous allons arriver à une conclusion rapide.
Alors si nous prenons 3 ailes, L. Félix, L. Mayombe et L. Olengankoy, je crois que les noms sont connus. Donc le chef de l'État a déjà 3 noms.
Je crois que le président
de la République... Même si on ne les fait pas officiellement.
Le président de la République a donné 48 heures pour qu'il y ait un nouveau Premier ministre. Prenons notre mal en patience. Nous observons ce qui se passe sur le plan politique. Il faudrait que...
Et votre analyse, au moment où le chef de l'État tiendra compte, parce que là, on est en train d'imaginer un scénario. Dans 48 heures, il n'y a pas attente entre les 3 ailes. Le chef de l'État prend une décision, par exemple, de nommer quelqu'un de l'aile qui a été consulté.
D'abord, il faut savoir que le chef de l'État, au regard de l'article 69 de la Constitution, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Il ne pourra pas accepter une paralysie à cause d'une crise d'un fait privé qui est le rassemblement. D'où, si, imaginons le scénario dont vous
parlez. Mais la CINCO avait reconnu le rassemblement, elle, Félix Tshisekedi.
Non, la CINCO a reconnu la continuité de la représentation du rassemblement qui avait été fixée au départ des discussions au niveau de la CINCO menée par M. Félix Tshisekedi. Là, même l'aile Olengankoy est restée dans cette ligne. Mm-hmm. Mais dans les faits, après la mort d'Étienne Tshisekedi, il y a eu éclatement du rassemblement, ça mm-hmm. nous le savons. Et d'ailleurs, si la CINCO avait reconnu cela, pourquoi ensuite la CINCO aurait demandé de mettre en service ses bons offices pour recoller les morceaux du rassemblement? Donc comprenez que la CINCO n'a pas reconnu une branche quelconque. La CINCO a continué de reconnaître la représentation du rassemblement au niveau des débats de la CINCO.
Voilà, on va prendre Maître Adrien, Franck de Vienne et puis Hugues. Je crois que la ligne s'est améliorée. Hugues, vous êtes avec nous, bonjour.
Je suis là, bonjour.
Voilà, je crois qu'on a encore des petits soucis avec votre ligne, Hugues. Alors, quelle est votre contribution?
En fait, à mon humble avis, je voudrais dire à M.
Voilà, là on sera obligé de couper. Vous avez vraiment des sérieux problèmes avec votre ligne, votre liaison.
Améliorer, c'est bon.
Voilà, on a vraiment des soucis. Le temps peut-être de prendre Franck qui est en Allemagne. Franck, vous êtes en Allemagne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité et aussi à tous les amis qui se sont déjà exprimés.
Alors Franck, en lisant votre message posté sur notre page Facebook, vous avez dit « Nous pensons que le profil du futur Premier ministre est déjà en soi dicté par teneur même des accords. »
Oui, je crois que c'est pas seulement mon point de vue, mais si on peut faire une observation, c'est ce qui est souhaité par la plupart des Congolais avertis, parce que quand je suis votre invité, il est en train d'argumenter, mais je crois qu'il doit aussi se rendre compte que nous nous trouvons dans une situation d'exception. Et du fait que nous sommes maintenant dans une situation d'exception, la procédure de la nomination du Premier ministre doit aussi se référer à certaines conditionnalités d'exception, quoi. On ne souhaiterait pas que ça soit quelqu'un qui n'a pas de mérite, on souhaiterait que ça soit quelqu'un qui répond au profil. Mais aussi, il faut de la sagesse de part et d'autre, parce que nous savons tous que l'État congolais, pour l'instant, se trouve sur le croisé des chemins. Alors, si on doit seulement conseiller le chef d'État à base du sophisme, à base de non-réalisme, à base du réalisme sur nos intérêts, là je crois que ça n'ira pas. Donc les accords, la teneur des accords du 31 décembre prescrivent déjà le profil du Premier ministre et décrivent déjà...
Oui, notre invité l'a reconnu ici.
Si on doit le prendre déjà à partir de ces accords, sa mission est déjà schématisée, son profil est déjà aussi schématisé.
Oui, mais Franck, nous sommes devant une réalité. Il y a trois ailes de rassemblement. Dans 48 heures, s'il arrivait que les trois ailes ne se mettaient pas d'accord, mais que va-t-il se passer?
Monsieur le journaliste, je voulais aussi en venir.
Oui, rapidement, parce qu'on n'a pas le temps.
Dans notre pays,
oui.
Nous devons éviter dans notre pays de faire cette politique de diviser pour régner ou d'appliquer la logique « Ôte toi de là que je n'y mette ». On divise pour régner afin qu'on se maintienne même là où on sait que on n'a plus de réalité, de résultats à présenter au public ou quoi. Mais hier, à la fin de ce discours-là, je suivais un peu, il y a des députés de la majorité, si vous me permettez, je peux citer leur nom parce que l'un de ceux-là a même été l'invité de votre rédaction de ce matin. Mmh. Il y a des députés de la majorité qui reconnaissent que même s'il y a des dissidences au sein du rassemblement, mais l'aile qui est vraiment authentique, qui a la légitimité du peuple, on connaît. Mais pourquoi maintenant on veut se cacher derrière cette dissidence-là? Moi, je crois que ce n'est même pas une nouveauté. À chaque fois qu'un gouvernement s'annonce dans notre pays, il y a toujours des dissidences au sein de l'opposition. Je ne pense pas que c'est la première fois. Et si nous devons reparcourir l'histoire politique de notre pays, depuis les années 90, chaque fois qu'il y avait nouveau gouvernement, il y avait toujours des divisions au sein de l'opposition. Mais qui les divise? On les divise pourquoi?
Mais est-ce que ça n'appelle pas la responsabilité aussi? Oui, est-ce que Franck... Oui, Franck, ça n'appelle pas la responsabilité aussi des opposants et même, parce que je ne crois pas que le bouchage, c'est voulu par la majorité ou c'est la majorité qui le fait peut-être devant des gens qui se laissent aussi prendre facilement. Donc je crois que ça appelle quand même une certaine responsabilité.
Oui, mais je crois que la responsabilité, monsieur le journaliste, elle est réciproque. Donc, il y a quelques jours, mon ami Omar avait parlé de l'immaturité politique de nos gens. Moi, je vais parler du manque de constance. Donc,
alors maintenant, allons droit au but.
Vous avez, donc, oui. Il faut que ça soit. Il faut qu'il y ait quand même de la constance. Il faut aussi qu'il y ait de la maturité politique, parce que quand vous allez diviser les autres, alors que vous savez que vous n'avez plus de légitimité du côté populaire. Vous créez seulement des situations pour vous maintenir.
Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup, il y a les principes en démocratie, en politique. Oui, je retiens Franck.
Un candidat qui est mûr et qui répond au profil.
Merci beaucoup. Donc, vous dites que nous sommes dans une situation d'exception et que la procédure que doit suivre le chef de l'État doit tenir compte des conditionnalités d'exception. Merci beaucoup, Franck. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, cher Lungembo. Bonjour à monsieur l'invité.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution, Maître Adrien?
Oui, merci, JR, de la parole que vous m'accordez. Je pense que le prochain Premier ministre, là, j'attire l'attention même du chef de l'État. Parce que il faut y mettre un peu de tact, un peu de souplesse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, monsieur l'invité peut bien parler des trois ailes. C'est comme donc Franck venait de le dire. Il faut voir quel est le souci. Où est-ce que la population congolaise est en train de brancher? Au jour d'aujourd'hui, si on pouvait même demander aux trois ailes là de lancer un défi, vous allez vous rendre compte qu'il y a un seul nom qui fait l'unanimité au sein de la population. Là, c'est de un. De deux, il faut aussi rappeler que la résolution 2348 fait de l'accord du 31 décembre 2016 une obligation. Donc, c'est comme ça, cette résolution attend le gouvernement qui sortira issu de cet accord pour qu'il puisse établir un budget crédible selon les termes de cette résolution. Donc ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que le chef de l'État ne puisse pas suivre les propos selon lesquels, non voilà, il y a trois ailes, il y a ceci, cela. Non, si le chef de l'État, dans les années passées, a eu à travailler avec ceux-là qui avaient tué les Congolais, il n'y avait pas eu de problème. À combien plus forte raison, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui fait l'unanimité au sein de la population peut être rejeté.
Voilà.
Troisièmement, je pense que La question, c'est comme Franck l'a dit, nous sommes en train de vivre une situation exceptionnelle. Je ne sais pas si monsieur l'invité peut me dire, même dans l'état normal, nous avions connu à peu près 3 gouvernements. Le premier gouvernement est venu. Est-ce qu'on peut me dire la liste des 3 noms qu'on avait soumis au chef de l'État pour qu'on puisse...
Voilà, je crois que, essayez de vous rappeler, maître Adrien, oui, je crois que, essayez de vous rappeler, nous sommes peut-être dans des circonstances un peu différentes, ou encore la même, on ne sait pas, mais lorsqu'on a nommé Antoine Gizenga, nous étions dans le cadre de la coalition, la majorité, l'AMP, Alliance de la majorité présidentielle, le Palou avait rejoint la majorité, on avait proposé à Antoine Gizenga, bon, là peut-être on ne sait pas s'il y a eu ce pouvoir discrétionnel, après il y a eu Mouzitou, toujours dans le cadre de l'Alliance pour la majorité, et la troisième étape c'était la majorité présidentielle où on a assisté à l'arrivée de Matata à Pogno, Matata 1, Matata 2, à ces niveaux, selon une indiscrétion, il y avait les 3 noms et le chef de l'État a usé de son pouvoir discrétionnaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore dans une circonstance de coalition selon l'esprit et la lettre de l'accord? Je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. 081-890-6381 pour votre intervention en direct.
Congolaises et Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Allez-y vite vous faire enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre maison, dans votre commune ou dans votre groupement.
Quelles sont les pièces à présenter pour se faire enrôler?
L'acte de naissance ou sa copie certifiée conforme, le certificat de nationalité, la carte de lecteur 2010-2011 délivrée par la CENI, le passeport congolais en cours de validité, la carte d'étudiant ou d'élèves en cours de validité et le livret de pension congolais.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai. Et toi?
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange aux citoyens. Thierry Monsenepo, cadre de la majorité et communicateur de la majorité présidentielle. Vous avez suivi les uns les autres, mais j'arrête à une chose, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il faut que la procédure tienne aussi compte des conditionnalités exceptionnelles.
Mais c'est justement par rapport à ça, mais permettez-moi de revenir rapidement à ce que les intervenants ont dit. Il est clair que le chef de l'État est respectueux des principes. Je peux mettre à défi quiconque quel est le deal politique que le chef de l'État a eu à tenir dans ce pays et qu'il n'est pas respecté. Lorsqu'il y a eu blocage au niveau de la CENCO, les différentes parties prenantes ont demandé l'arbitrage du chef de l'État. Et c'est même par rapport à cela que le RASOP, elle, Félix Tshisekedi, a écrit pour demander une audience au chef de l'État. C'est au regard du rapport qui lui a été donné par les évêques que le président a lancé les différentes consultations qui ont vu défiler au Palais de la Nation les différentes parties qui ont pris part à ces discussions directes. Une invitation a été lancée au rassemblement, elle, Félix Tshisekedi, mais ils n'ont pas répondu. Pourtant, ils avaient demandé une audience au chef de l'État. C'est cela aussi une question de responsabilité dont le peuple doit essayer de tirer les oreilles des leaders politiques. En ce qui concerne la division, j'ai entendu un auditeur ici dire qu'il ne faut pas diviser les hommes politiques, mais il ne faut pas non plus faire des procès d'intention. La division au moment où il y a des gouvernements qui arrivent, mais c'est ce dont a fait allusion hier le chef de l'État, des hommes politiques qui veulent prendre le peuple en otage pour leur propre positionnement. C'est cela qui fait qu'il y a malheureusement des dissensions, des positionnements qui ne comptent pas, qui ne tiennent pas compte de la réalité politique sur le terrain. Mais au-delà de cela, parlons maintenant de la question du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ces résolutions sont recommandatoires. Ce n'est pas que le Conseil de sécurité va obliger les Congolais à appliquer l'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans une difficulté où 10% de l'accord a du mal à se mettre en place en ce qui concerne les arrangements particuliers pour le modalité de choix du Premier ministre et le président du CENSA. Il est maintenant de la responsabilité des hommes politiques congolais d'essayer de voir comment arrondir les ongles. Mais aujourd'hui, il ne faut pas, et je le répète, dire qu'il y a telle aile du rassemblement qui est plus légitime que l'autre. Il n'y a pas eu un vote pour déterminer qu'il y a un assentiment du public pour tel ou tel autre. Nous sommes en train... Et si on se perd sur ce chemin, on va vraiment casser la baraque. Nous sommes en train de rester sur les principes.
Et le fait que le RASOP, elle, Tshisekedi, ne s'est pas présenté aux consultations, c'est elle, et pratiquement ou quasiment écarté de la course.
Le chef de l'État, la primature. Le chef de l'État, ainsi que sa famille politique, reste sur les principes. Les principes dégagés au niveau de l'accord de la Saint-Sylvestre sont clairs. Le Premier ministre doit provenir du Rassemblement. Il est de la responsabilité du Rassemblement de rafistoler ses failles.
Et dans 48 heures.
Le chef de l'État est garant du bon fonctionnement des institutions. C'est de la responsabilité de nos amis de pouvoir aujourd'hui.
Est-ce
comprendre...
qu'à ce niveau-ci, on peut quand même interpréter cette phrase, le chef de l'État, c'est dans ses droits les plus légitimes, lorsqu'il dit qu'il ne tolérera pas qu'un groupe d'individus puisse prendre le pays en otage. Ce qui revient à dire, je crois que je parle un peu de choses comme ça qui me passent par la tête, qui revient à dire qu'au cas où il y aura toujours cette dissension ou encore des mésententes entre les trois ailes, le chef de l'État pourrait sortir de l'accord du 31 décembre.
Il faut savoir une chose. Président de la République a dit qu'il reste dans l'accord. Mais il faut savoir une chose. C'est que la crise en RDC n'est pas une crise politique. C'est une crise principalement électorale. Parce que si nous prenons la genèse de ces discussions au niveau d'abord de la Cité de l'Union africaine, jusqu'à aujourd'hui au niveau de la CINCO, c'est principalement autour du processus électoral.
Donc, mais les élections, c'est politique ou c'est technique simplement? Parce que ne pas organiser les élections, c'est qu'il n'y a pas les institutions...
Le problème qui nous a conduit ici est le suivant. Premièrement, c'est qu'il y a eu un retard de financement pour les choses que nous connaissons, c'est-à-dire un rabais de notre trésor public à cause de... matières premières qui ont connu le rabais, il y a la question de la guerre du M23, n'ont pas permis à ce qu'il y ait réellement financement des élections. Au-delà de cela, il y a le manque de consensus autour du processus électoral. Ce qui a fait qu'à trois reprises, il y a eu éjection d'une frange de la classe politique du calendrier électoral. D'où l'importance aujourd'hui que nous puissions réfléchir ensemble sur la possibilité de se mettre d'accord sur les deadlines pour les élections, pour permettre à la CENI d'avoir un calendrier qui serait accepté par tous. Parce qu'au-delà de tout cela, les crises post-électorales de 2006 et de 2011 nous a enseigné. Et c'est parmi les éléments qui ont permis à ce que le chef de l'État puisse donner la possibilité des discussions politiques pour permettre à ce qu'un consensus soit dégagé. Maintenant, au-delà de tout cela, il y a le besoin de co-gérer avec les amis de l'opposition pour permettre de trouver tous les moyens financiers ensemble pour donner les moyens à la CENI pour aller de l'avant.
Est-ce qu'on peut parler de la coalition? D'une coalition qui va être dégagée maintenant? Comme ce fut le cas avec Palou.
Qu'il en coûte, lorsque déjà on est dans un même gouvernement, c'est une coalition contre les défis qui se dressent.
Donc nous sommes dans un cas exceptionnel. Donc nous sommes dans un cas exceptionnel.
Bien entendu.
Donc nous sortons du cadre de la Constitution d'ailleurs.
Impossible de sortir du cadre de la Constitution parce que nous sommes aujourd'hui guidés par la Constitution. Mmh. Aujourd'hui, les institutions de la République tirent leur légitimité de la loi fondamentale, contrairement à ce que d'autres peuvent penser, que c'est les accords qui donne la légitimité aux institutions. Cela est totalement
voilà,
faux.
Revenons au profil. Je crois qu'il y a un auditeur qui nous a rejoint également. Maître Gabin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors Maître Gabin, vous êtes juriste. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui toute cette confusion, interprétation, constitution, accord, et aujourd'hui un Premier ministre qu'on attend, faudrait-il tenir compte des dispositions constitutionnelles ou, rester dans la teneur de l'accord du 31?
Merci beaucoup d'abord pour cet appel. Je voudrais tout simplement dire que les parties elles-mêmes, au regard de l'accord du 31 décembre 2016, se sont engagées à respecter la Constitution. Il faut lire l'accord du 31 décembre. Les parties s'engagent à respecter la Constitution du 18 octobre et du 18 février 2006. C'est mentionné clairement dans l'accord du 31 décembre. Maintenant, le vrai problème, c'est que d'un côté, il faut respecter cette constitution, mais en même temps aussi, le fait de reconnaître que le Premier ministre doit être issu du Rassemblement, les rassemblements n'étant pas, dans la majorité parlementaire, il est clair que quelque part, les partis se sont engagés à violer plus ou moins cette disposition, notamment l'article 78 de la Constitution, dans la mesure où le Premier ministre proviendrait du Rassemblement. Mais malheureusement, dans l'articulation de la partie en rapport avec la désignation du Premier ministre, ils ont pris d'un côté le fait que le Premier ministre est issu du Rassemblement et le fait qu'il doit être nommé conformément à l'article 78 de la Constitution. Or, l'article 78 de la Constitution permet justement que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, les rassemblements ne constituant pas cette majorité parlementaire. Donc, bref, les partis se sont engagés à respecter la Constitution, mais de l'autre côté, dans la formulation, on se rend compte que d'une façon ou d'une autre, le fait que le Premier ministre doit provenir du Rassemblement, c'est quand même une violation de la Constitution, ayons le courage de le dire, parce que justement, on veut régler le problème.
Est-ce que...
J'ai en même temps entendu, votre invité, M. Thierry, que je salue en passant, disant, mais écoutez, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le garant de la Constitution. Je suis tout à fait d'accord. Mais où se trouvaient ces garants du bon fonctionnement des institutions et de la Constitution elle-même lorsque les élections n'ont pas été organisées? Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans pour que les élections soient organisées? Rien du tout. Ce que je voudrais bien dire, c'est que nous savons, moi je ne dis pas que les rassemblements ont raison, je dis les rassemblements ont tort de dire que l'accord dit qu'il faut présenter un candidat. La majorité présidentielle aussi a tort de dire que les rassemblements doivent présenter 3 candidats. Dans la mesure où c'est l'arrangement particulier qui aurait bien permis de définir les modalités pratiques de la mise
en œuvre de
l'accord. Or, cet arrangement particulier n'a pas été conclu. C'est pourquoi j'ai dit à nos amis du Rassemblement, faites très attention, lorsque vous avez affaire à un adversaire politique de mauvaise foi, en l'occurrence la majorité présidentielle, ne jouez pas son jeu. Ça ne vous coûte rien de présenter 3 noms, parce que de toutes les façons, son choix sera sur votre propre choix, dans la mesure où le président de la République ne sortira pas du choix du rassemblement, notamment le 3 noms à lui présenter. Vous savez que la majorité présidentielle est de mauvaise foi, je l'ai dit, je l'assume, vous tombez dans son piège, parce qu'en ce moment-là, ce qui va se passer, ils vont pouvoir vous contourner. Moi, je ne crois pas, si on veut être honnête dans ces pays, on ne peut pas aujourd'hui admettre qu'il y a 3 ailes des rassemblements. D'autant plus que Patrick Mayombe, je ne la compte pas, pour la simple bonne raison que l'accord du 31 décembre 2016 a fait un distinguo entre les signataires de l'accord du 18 octobre 2016 et les non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016, en l'occurrence les rassemblements. Or, le groupe Mayombe se trouve être les signataires de l'accord du 18 octobre 2016. Donc, ils ne peuvent pas en même temps être signataires de l'accord du 18 octobre 2016 et considérer qu'ils font partie du rassemblement. Cela est tout à fait malhonnête. Mais je n'entends pas une fois de plus dans une guerre entre Olenga Nkoy et Nel Félix Tshisekedi, etc. Mais si on veut être, honnête du point de vue de l'orthodoxie même de l'accord, il a été dès les vivants d'Étienne Tshisekedi à Mulumba. Félix Tshisekedi a été désigné comme étant, le chef de la délégation de tout le monde, y compris l'aile d'Olenga Nkoy. La logique aurait exigé, si on n'accepte pas la restauration du rassemblement avec Pierre Lumbi, la logique aurait exigé au moins qu'on puisse se traiter avec les chefs de la délégation. Parce que même au niveau des travaux des Cinco qui ont débouché sur la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, ainsi que l'arrangement particulier, les rassemblements est représenté par Félix Tshisekedi.
Alors comment entrevoyez-vous les scénarios dans 48 heures, si jamais les 3 ailes, bon vous ne parlez pas les 3 ailes, 2 ailes si je comprends bien, Olenga Nkoy et Félix, ne se mettaient pas d'accord, le chef de l'État en tant que garant de la nation peut nommer celui que lui l'estime dans son pouvoir discrétionnaire capable de conduire, parce qu'on ne doit pas continuer à rester avec un accord sans gouvernement ou avec un gouvernement sans accord.
Oui, mais les vrais problèmes, c'est quoi? Les vrais problèmes, ce que je dis, la crise à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est une crise artificielle. Qu'est-ce qui coûterait, bien évidemment, au rassemblement de présenter 3 noms? Ils n'ont pas 3 noms à présenter. Ils se sont moqués du président Joseph Kabila il y a quelques années en disant que le président de la République, Joseph Kabila, n'avait pas 15 000 personnes autour de lui. Et aujourd'hui, ils n'ont pas 3 personnes autour d'eux
voilà.
À présenter.
Merci.
Ça, c'est tout à fait inacceptable et ridicule. C'est tomber dans les pièges, bien évidemment, de la majorité présidentielle.
Merci.
Mais en même temps, lorsque vous lisez, vous suivez les discours du président de la République, Il dit, bon, mais dans 48 heures, impérativement, il doit nommer le président de la République. Quel est le temps nécessaire qu'il donne à ceux qu'il a qualifiés d'avoir des querelles intestines? Quel est le temps nécessaire qu'il leur donne pour pouvoir
se concerter et harmoniser.
Encore qu'il se veut être, comment dirais-je, respectueux de l'accord du 31 décembre. Mais pour qu'il nomme ce premier ministre doit être présenté par les rassemblements. Or, lui-même reconnaît qu'il y a des ailes qui ne s'entendent pas. La question étant une question préjudicielle, ça veut dire, lui ne peut pas nommer un premier ministre sans que ce premier ministre ne lui soit présenté. Or, lui-même reconnaît que les ailes ont des difficultés. Comment lui va-t-il nommer sans qu'on lui présente le premier ministre?
Merci
ça
beaucoup.
Veut dire que la question préjudicielle, c'est qu'il faut d'abord que les gens au sein du rassemblement harmonisent pour que les rassemblements lui présentent. Autrement, lui ne peut pas nommer sans qu'on lui présente.
Merci beaucoup, Maître Gabin, d'avoir fait ces analyses. Thierry Moussenepo.
Merci beaucoup. Je voudrais dire à Maître Gabin qu'il y a un distinguo à faire entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Je vais lui donner l'exemple de ce qui s'est passé à l'accord du 18 octobre à la Cité de l'Union africaine, qui a permis la nomination de M. Sami Badibanga comme Premier ministre. Il était président du courant UDPS, de groupe parlementaire UDPS et allié au niveau de l'Assemblée nationale. Comprenez donc qu'il y a eu une refondation de la majorité parlementaire qui a permis de respecter la Constitution et le choix de M. Sami Badibanga. Donc lorsqu'il dit que le fait qu'il y ait une tractation politique, un arrangement politique pour le choix d'un candidat Premier ministre qui proviendrait du rang du Rassemblement, cela n'est pas tordre la Constitution au regard de son article 78, parce que une refondation fonctionnelle de la majorité parlementaire doit être faite pour obtenir ce résultat. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu violation de Constitution. Deuxièmement, lorsqu'il dit que il y a eu un manque d'action de la part du chef de l'État garant du bon fonctionnement des institutions
de la part de
en ce qui concerne la CENI qui n'a pas organisé les élections. Il faut reconnaître qu'au regard de notre loi fondamentale, et maître et avocat mieux outillé que moi pour le savoir, ce n'est pas le chef de l'État qui organise les élections, mais la CENI. La CENI a établi des difficultés, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire que ce pays a connue. Et notre trésorerie a connu des problèmes en termes de financement au-delà de tous les aspects politiques dont je venais de parler aujourd'hui. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu un financement de près de 320 millions de dollars pour le processus électoral congolais. Et il faut aussi reconnaître que c'est le processus électoral le plus onéreux de l'Afrique centrale, pour ne pas dire
du gouvernement.
Sur fonds propres du gouvernement. Mais alors dire que le président de la République n'a rien fait, c'est de la mauvaise foi et je dirais même de la méchanceté. En ce qui concerne la mauvaise foi de la majorité présidentielle, je crois qu'il faut éviter de faire devenir nos amis de l'opposition, surtout du Rassemblement, des indolents. Parce que ça me choque de ne voir aucune reproche qui leur est adressée en ce qui concerne leur mauvaise foi manifeste. Parce que la majorité présidentielle a déjà démontré de sa bonne foi en acceptant ses multiples discussion directe en acceptant de se délester d'un poste de Premier ministre et de certains autres postes de responsabilité au sein du gouvernement. Mais en face, qu'est-ce qu'il y a comme acte de mauvaise foi? Premièrement, le refus de présenter trois noms seulement. Et là, je rejoins Maître qui a dit qu'ils sont dans l'incapacité de donner trois noms seulement. Deuxièmement, le refus de présenter un candidat pour présidence de la CENSA qui obtiendrait le consensus de tout le monde. Cette mauvaise foi-là, on ne la voit pas. Troisième mauvaise foi, nier d'avoir rencontré le chef de l'État alors qu'on l'a rencontré pour des raisons bien précises concernant le deuil de votre père. Refuser de répondre à une invitation du président de la République alors que quelques jours avant on a adressé une demande d'audience pour rencontrer ce même président de la République pour résoudre le problème ou le blocage au niveau des arrangements particuliers. Donc comprenez que tout cela prouve à suffisance
mais quand la majorité qu'il y a de aussi la refuse foi. Que l'UDPS ou le président du Rassemblement rencontre le chef de l'État. Mais c'est pas de la mauvaise foi.
La majorité n'a jamais refusé cela.
Le Parce chef que nous de avons l'État... vu quelques politiques à la télé dire on peut accepter tout, mais pas... bon, il y a des jugements de valeur, nous n'entrons pas dans
le chef de l'État est une institution qui fonctionne indépendamment de la majorité présidentielle qui est la famille politique du président Kabila. Donc, la majorité n'a pas pouvoir d'interdire à l'institution président de la République de recevoir des citoyens congolais.
Voilà, vous nous permettez de prendre deux auditeurs, une minute à chacun, puis on conclut l'émission. Félicien, vous êtes à Kinshasa, Maître Likonza, dans la ville-province de Kinshasa également. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les
auditeurs. Oui, rapidement, quel est le profil pour vous dans les prochains jours? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites par vos prédécesseurs.
Exactement, moi je ne vais plus revenir sur ce que les autres ont déjà dit, c'est déjà très bon. Mais moi je vais vous dire que pour tout gouvernement qui veut bien réussir, il a besoin de la confiance du peuple, et il a besoin de la confiance des partenaires internationaux, parce que nous ne dépendons pas totalement de nous-mêmes. Et dans notre pays, comme les autres l'ont dit, nous sommes dans une situation exceptionnelle. C'est pourquoi le président de la République ne tient pas compte des accords quand il dit que si dans 48 heures on ne lui présente pas quelqu'un, il va nommer. Ça signifie que ni la constitution, ni les accords, ni quoi. Donc on est dans une situation exceptionnelle.
Merci beaucoup.
Mais dans une situation exceptionnelle, il faut qu'on tienne ensemble.
Si vous le permettez, Félicien.
Si nous avons l'impression qu'il y a un mur entre le peuple et ceux qui dirigent.
Voilà, Félicien, vous le permettez, on prend aussi Maître Likonza.
À une ville morte, on dit non.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Félicien. On prend Maître Likonza également. Maître Likonza, bonjour.
Bonjour, Gilles.
En 30 secondes, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus assez de temps.
Bien, merci. J'ai suivi avec intérêt les interventions de tout le monde.
Juste une phrase, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce qui a été dit?
Seulement, je voudrais ajouter que la nomination d'un nouveau Premier ministre ne soit pas considérée comme un défi à lancer au rassemblement qui ne voulait pas peut-être de présenter une liste de trois candidats.
Voilà, merci. Merci beaucoup, ça ne doit pas être un défi. Merci beaucoup, Maître Likonza. Voilà, merci beaucoup, Maître Likonza. On revient à vous, Thierry. Ça ne doit pas être un défi. C'est ça le dernier mot.
Ça ne doit pas être un défi et il ne faut pas consacrer une capacité de nuisance comme critérium pour parvenir à un poste aussi important que la gestion de l'exécutif de notre pays, parce que l'histoire de notre nation regorge des exemples où, à chaque fois que le Premier ministre s'est érigé en rempart contre le président de la République, il y a eu crise institutionnelle. L'histoire en regorge, telle que ça a été le cas entre Tshombe et Kasavubu et feu Maréchal Mobutu et feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Il est important qu'aujourd'hui, au-delà de toute considération politique, que le futur Premier ministre soit un collaborateur du chef de l'État qui sera engagé dans cette marche que le président veut imprégner à notre pays, sa relance économique, la stabilisation de la situation sociale, la résorption des problèmes sécuritaires et la tenue des élections dans ce pays à bonne date.
Thierry Moussenepo, communicateur de la majorité, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler et commenter également les discours du chef de l'État sur la nation du mercredi 5 avril devant les deux chambres du Parlement, réunis en congrès. Et le chef de l'État, Joseph Kabila, avait annoncé la nomination d'un Premier ministre dans 48 heures. Merci à vous tous qui avez participé à ces débats et surtout qui avez participé depuis hier au débat sur notre page Facebook et nos différents réseaux sociaux. Nous remercions également donc vous, l'équipe qui avait au fait concouru pour réaliser cette émission. André Mongou, vous étiez à la mise en onde et Nico Kalambay à la réalisation de cette émission, supervisée par Martin Sebujangwe, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.